Nous voilà de retour.
Vous jouez un nouveau tour. Tain, on dirait un soda alors que c'est une bière en fait. C'est quand même étrange. Hein.
Aujourd'hui on est sur du Kura. Alors les gens vont penser, parce qu'on fait les podcasts toutes les semaines, mais eux ils le voient à chaque fois, ils vont dire mais à chaque fois ils picolent dans les épisodes. À chaque fois ils fument des cigares. Bon bah on fait pas des podcasts tous les jours.
Oui, et puis c'est surtout on picole que lorsqu'on fait des podcasts. Donc ouais. Évidemment.
Et c'est de la bière. Et c'est une très bonne bière d'ailleurs.
Ouais, elle a un goût de mangue, c'est assez intéressant. Étant donné que moi je suis pas très fan de la bière.
Exactement.
Quelle est la thématique aujourd'hui, Jérôme? Bienvenue, Jérôme, sur le podcast Better Call Lyoto.
Merci.
Ah oui, parce qu'on avait du mal à le lancer. Hein.
Merci de m'accueillir. Et puis je te renvoie la parole et bienvenue sur le podcast Better Call Lyoto.
Avec plaisir, hein. je suis là pour ça. Et aujourd'hui, on est rassemblés en ce jour saint pour répondre
le jour des dieux.
Questions-réponses. Donc on va sélectionner toutes vos questions que vous nous avez posées et on va y répondre. En tout cas, on va répondre à celles qu'on pense pertinentes.
Enfin, ça fait un moment qu'on faisait des épisodes avec des invités ou des épisodes thématiques. Et aujourd'hui, on va faire un peu du Q&A.
Ouais, c'est vrai qu'on était parti un peu en roue libre. On vous disait de poser des questions, On n'y répondait jamais parce qu'à chaque fois, on faisait des hors-sujets, soit en invité. Enfin, hors-sujet, pas des hors-sujets, mais des hors-questions, on va dire.
Des thématiques qui venaient un peu chambouler les plans.
Exact.
D'ailleurs, ce podcast, comme vous pouvez l'avoir remarqué, on fait plusieurs choses. Avant, on était cantonné, on essayait de faire un seul format. Qui était soit du juste question-réponse, soit des juste live, soit des juste thématiques, réactions à des vidéos, tout ça. Et là, finalement, on a décidé de plus trop s'emmerder et de faire ce qu'on avait envie de faire. Donc, cette semaine, c'est des questions-réponses. La semaine dernière, c'était avec Charlie, je crois. Si c'est dans la bonne chronologie, c'était le podcast qu'on a fait avec Charlie en présentiel. La semaine prochaine, ce sera probablement un autre invité de Marc. Et ou pas d'ailleurs, on verra.
Tu respectes bien la chronologie, hein. J'avais un peu. Ouais, parce que là, t'as fait une petite gymnastique pirouette artistique.
Gymnastique mentale. Et puis on va faire bientôt une réaction à une vidéo aussi. Voilà. Bon, on va sans plus attendre.
Démarrer.
Hop, je me cadre.
Donc c'est parti. Donc on vous avait demandé d'envoyer vos questions sur Instagram. Donc certains ont envoyé par audio, d'autres par écrit. Donc on va commencer par les quelques. On a reçu deux audios et ensuite on ira. Je lirai les questions à l'écrit.
Exactement. Et pour tous ceux qui veulent nous poser les questions à l'audio, c'est l'Instagram est dans la description. Comme ça, on y répond sur les sessions Q&A.
Alors bonjour l'équipe, bonjour Jérôme et bonjour Raphaël. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous remercie amplement pour ce que vous faites, ce que vous créez, les podcasts, etc. C'est très, très instructif. Et j'ai des questions. Vous nous aviez demandé de poser des questions, donc j'en ai quelques-unes. Alors, première question, comment faire pour pécho une fille qu'on a dans le bahut, à qui nous plaît. La deuxième, c'est quel est l'âge de fille le plus facile à choper. Et est-ce que la démarche de séduction est la même ou ça varie en fonction de l'âge. Troisième question, combien de conquêtes a...
Ça fait quand même beaucoup de questions jusque-là.
Tu peux revenir en arrière et puis on commence petit à petit. Voilà. Bon, ou alors finis l'audio et puis on reprendra.
On reprendra ? Bah attends, parce que...
Alors bonjour l'équipe.
Ah non, ça recommence depuis
alors,
le début.
Mais tu peux mettre pause. Bonjour Jérôme et bonjour Raphaël. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous...
Eh non, tu peux pas putain avec ce putain d'ordinateur là.
Alors bonjour l'équipe,
à chaque fois, ça
bonjour
se relance.
Jérôme et bonjour Raphaël,
bon,
j'espère que vous allez bien.
Je vais noter.
Alors déjà je vous remercie amplement pour ce que vous faites, ce que vous créez, les podcasts, etc. C'est très, très instructif et j'ai des questions, vous nous aviez demandé de poser des questions, donc j'en ai quelques-unes. Alors première question, comment faire pour pécho une fille qu'on a dans le bahut, à qui nous plaît. La deuxième, c'est quel est l'âge de fille le plus facile à choper et est-ce que la démarche de séduction est la même ou ça varie en fonction de l'âge. Troisième question, combien de conquêtes avez-vous eu à peu près chacun et c'est quoi la chose que vous avez le plus retenue avec autant d'expérience. Et la dernière question, comment vous vous êtes rencontré avec Jérôme. Merci les gars et bon podcast.
C'est presque la dernière question qui est la plus marrante à répondre parce que les autres, on a tellement entendu.
Oh là là là.
Alors ça fait beaucoup de choses.
Ça fait 4-5 questions.
Ouais, notre petit bichon. Alors il veut rester anonyme, donc on va pas lui donner son prénom.
André.
André, allez, très bien, ça lui va très bien.
Allez, l'âge, comment choper au bahut, Jérôme? Comment choper au bahut? Mais ça c'est complexe. Hein.
Au bahut, donc au bahut, on va traduire, c'est au collège.
Lycée. Ouais, collège-lycée.
Collège-lycée.
Ouais, bon,
comment choper, être parmi les plus populaires
voilà. Mais, alors déjà... établir la cible. C'est toujours pareil, c'est qui tu veux choper dans le bahut. Si c'est une fille qui est populaire, qui traîne avec les groupes un petit peu... Tu sais, les groupes, t'as toujours des groupes un peu stars où t'as envie d'être dedans parce que c'est les mecs les plus cool, les plus mignons, les plus extravertis, ceux qui ont le plus confiance en eux, ceux qui ont des grandes gueules. Si tu veux choper une fille qui est là-dedans, il va falloir faire partie d'entre eux, sinon ça va être compliqué. Si c'est une fille du groupe populaire, c'est une fille qui n'est pas dans ce groupe, mais tout dépend où toi tu te situes dans la classe, quoi. Mais c'est une question difficile, hein. C'est une question.
Comment draguer une fille. Tu vois, ça fait presque partie de ces questions où il faut préciser, tu vois, comment choper au bahut.
Va lui parler. Commence par lui parler. Interagis avec elle.
Voilà. Et si tu veux avoir le plus de succès, fais partie du groupe de ceux qui sont le plus populaires. Ouais. Donc, qui font des activités, qui ont des amis, qui sont marrants, qui vont, j'en sais rien, dans quel endroit t'es. Est-ce que t'es un petit lycée, un grand établissement, une grande ville, une petite ville. En gros, sois populaire, sois cool, sois ami avec tout le monde. Voilà. Et que les gens cherchent être en ta compagnie. Voilà. Ouais, ça sera le meilleur moyen.
Ça, c'est en macro. Ça, c'est en macro. En micro, c'est va juste lui parler. Va lui parler.
C'est que t'as tous les contextes possibles, inimaginables, ouais, pour créer une conversation sans passer pour un mec bizarre.
Ouais, exactement.
Donc profites-en.
Ouais. Qu'est-ce qu'on enchaîne? Parce que c'était une question un peu. L'âge de fille la plus facile à choper, est la même. Quel est l'âge de fille le plus facile à choper? Est-ce que selon toi, c'est plus facile quand elle a 15 ans, c'est plus facile quand elle a 25, 20, 30, 35, 40, 50?
C'est moi ou c'est toi?
Là, c'est moi, là, normalement.
Non, c'est pas la question. C'est qui c'est qui fait ça, les deux ou,
ah oui,
ou
c'est moi, mais c'est moi sûr.
Non, mais on peut faire les deux, c'est juste pour savoir.
Bah, hein. Ouais. Donc voilà, donc la question, à quel âge aussi, c'est le plus facile de choper?
Pour un mec ou quel est l'âge de la fille?
Pour un mec. Oui, quel est l'âge de fille qui est plus facile pour un homme à choper? Alors moi, la réponse est, il n'y a pas d'âge. Tous les âges...
Ça
dépend, ouais, c'est tellement spécifique. En fait, c'est très simple. Il y a des filles de 30 ans, elles vont être plus faciles que d'autres de 20 ans. Il y a des filles de 30 ans qui vont être plus difficiles. En fait, c'est...
Ça dépend du contexte et de...
Ça dépend de l'âge, du contexte, de la situation, du timing, de toi, ta valeur par rapport à elle. Ça dépend de plein de choses, en fait. Donc, on ne peut pas te répondre à cette question.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, choper? C'est ouais. quoi c'est, bon, coucher, c'est coucher avec elle juste une fois? C'est développer une relation?
Il n'y a pas d'âge où c'est plus facile. Honnêtement, il n'y a pas d'âge où c'est plus facile. Il y a peut-être un âge où le contexte sont plus favorisants pour faire des rencontres. Collège, lycée, faculté. C'est peut-être beaucoup plus favorisant pour faire des rencontres parce qu'il y a les soirées, il y a les soirées étudiantes, il y a les classes qui se mélangent, il y a la vie à la faculté que tu as moins quand tu es dans le monde du travail. Donc ça va jouer pour les rencontres, mais est-ce que ça va être plus facile? Si tu ne fais rien, ça sera pas plus facile, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Question difficile, je pense qu'on y a répondu.
Question trop large. Essayez si vous avez des questions, je trouverai ça encore mieux. Tiens.
Ouais, ah oui, pardon.
Sinon, on t'a...
Il est trop loin le pad.
C'est de préciser des questions qui sont peut-être qui correspondent à une expérience ou à une anecdote ou à une situation que vous vivez en ce moment. Ça permettra de mettre plus de contexte, d'avoir plus de choses à dire, de donner des conseils qui seront plus pertinents. Parce que quel est l'âge de la fille? En fait, on va répondre. Si c'est des questions aussi larges, on va tout le temps répondre. Ça dépend. Tu vois, donc est-ce qu'une fille de 30 ans va être plus susceptible de vouloir une relation longue, etc., avec un homme de 20 ans qui la rencontrerait dans telle situation? Là déjà il y a de la matière à pouvoir essayer d'expliquer, à pouvoir dire ok, voici les enjeux dans cette situation, ouais, voici ce qu'elle peut penser, et puis par rapport où j'en sais rien, quelqu'un qui aurait, alors on va pas faire des consultations privées, mais tiens, j'ai un contact où j'ai fait une rencontre avec telle personne, elle se comporte comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là c'est plus sympa pour nous. Plutôt que des questions qui sont très larges, c'est très bien, hein, et qui sont finalement en fait c'est soit on clôt très vite en disant ça dépend de plein de situations, soit on fait une réponse qui va durer 1h30 et qui sera chiant pour tout le monde.
Ouais. Suite de la question, c'est est-ce qu'il y a des démarches, est-ce que la démarche de séduction est différente en fonction justement de cet âge-là, entre guillemets?
C'est déjà un peu plus intéressant ça, comme réponse. Qu'est-ce que t'en
comme
penses
question.
Comme question la réponse.
Alors, j'en pense que la démarche est absolument la même. C'est-à-dire, la démarche, ça va être toujours la même chose. Ça va être commencer à parler à la fille, développer de l'attraction en parlant de soi, en se valorisant, en étant taquin, en faisant preuve de confiance, etc. Ça va être toujours la même démarche. Ensuite, on va passer qualifier, donc dire qu'est-ce qu'on aime chez la fille autre que son physique. Bon, c'est des trucs un peu techniques, mais les phases vont toujours les mêmes. Un peu de confort, sexualisation, donc être de plus en plus tactile, escalade sexuelle comme on l'appelle, et ensuite conclure, donc essayer de coucher avec cette fille. Ça, sur le plan de la séduction, c'est exactement la même chose pour toutes les filles.
Sur le modèle théorique, ouais, de la progression émotionnelle.
C'est la même
qu'on enseigne vraiment en détail dans notre programme. Voilà, je vais faire un peu de pub.
Ouais, non, mais bien sûr. Et ça, c'est
pour
vraiment
expliquer que ça sort pas de nulle part.
Exactement la même chose. En revanche, en fonction de l'âge, donc ça c'est pertinent, en fonction du contexte. Donc, est-ce que t'es en soirée, est-ce que t'es en journée, est-ce que t'es en vacances, est-ce que t'es dans une grande ville, une petite ville.
Du timing aussi de rencontre.
Du timing. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur la vitesse à laquelle tu vas pouvoir dérouler cette démarche de séduction. Et ça, il va vraiment falloir t'adapter en fonction de tous ces paramètres-là et calibrer en fonction de la fille que tu as en face de toi. Et donc, potentiellement, l'âge va jouer sur la calibration. Tu vois, par exemple, une fille qui va être plus âgée, peut-être que ça ne l'intéressera pas du tout de se faire embarquer par un mec pour aller baiser dans une rue ou dans une bagnole parce que c'est quelque chose qu'elle aura déjà fait dans sa jeunesse. Et elle n'aura peut-être plus l'état d'esprit pour perdre son temps à coucher à droite à gauche. Elle aura d'autres envies, comme par exemple construire quelque chose de plus sérieux, de plus stable, fonder une famille, etc. Et donc dans ce cadre-là, ça ne va pas fonctionner avec une fille plus mature. Les questions, et c'est pour ça qu'on disait que ça dépend, parce qu'évidemment, il y aura... Tu vois, par exemple, admettons, on prend une fille qui s'est mariée à 20 ans et qui a divorcé à 35. Si tu la rencontres à 35 ans, tout ce que je viens de dire n'aura plus de valeur, étant donné que peut-être elle sera dans un état d'esprit où elle aura envie justement de profiter davantage, ouais. Et donc elle sera complètement open à coucher à droite à gauche,
des rencontres légères,
voilà, des rencontres légères, ouais. Exactement, donc voilà, tu vois, et c'est exactement ça.
La question originelle, c'était quoi exactement?
C'était est-ce qu'il y a un âge qui est plus facile qu'un autre pour choper, ouais. Et est-ce qu'en fonction de cet âge là la démarche est la même ou pas de séduction, ou est-ce que c'est différent?
Ben, c'est en fait, c'est ça, c'est, tu l'as dit, le progression de la théorie, le modèle de progression est le même. Après, c'est vrai que la calibration va forcément être différente. T'es en train de me dire, est-ce que tu vas t'adapter, tu vois, il y a des grandes généralités communes qui vont être d'être capable d'attirer, de te montrer sous ton meilleur jour, de montrer preuve de confiance, de faire en sorte que elle soit attirée. Mais derrière, la façon dont tu vas t'y prendre pour que ça arrive, ça va être un petit peu différent. Tu vois, je vais prendre deux exemples à la con. Tu ne vas pas te comporter de la même manière si tu veux attirer une fille qui est religieuse et qui a couché qu'une seule fois dans sa vie, que si tu es avec une fille qui est tout l'inverse, qui adore faire des plans de lendemain, qui n'a aucun problème par rapport à ça. Tu vois, d'un côté, tu n'as pas intérêt à être tactile trop vite, parce que sinon, tu risques de te faire rejeter, tu risques de créer vraiment un blocage. De l'autre côté, tu as intérêt à être tactile assez vite, parce que ça peut aller très vite. Et au contraire, si tu prends un peu trop de temps, tu peux te faire éjecter. Donc, il y a ce truc-là.
C'est là où je prends la pincette. Parce que, oui, parce qu'en fait, c'est la même démarche, mais c'est juste pas la même vitesse et les mêmes préoccupations dans le chemin. Et c'est exactement ça. Par exemple, des Brésiliennes, vous allez pouvoir progresser beaucoup plus rapidement vers quelque chose de sexuel, comparé par exemple à une fille musulmane qui a connu 2-3 hommes dans sa vie, qui doit absolument se marier pour sortir du cocon familial, entre guillemets. Ça va être exactement la même démarche, elle va être attirée de la même façon par un homme qui a confiance en lui, qui est beau, qui arrive à mettre du statut social sur la table, qui arrive à être marrant, toutes ces choses-là d'attractivité. Mais vous allez le dérouler de façon différente parce que, par exemple, c'est ça, une party girl, ça va être beaucoup plus facile de coucher avec elle parce qu'elle aura l'habitude de le faire et qu'elle aura aucune gêne mentale ou sociale, de pression sociale, qui iront contre le fait de coucher avec vous rapidement. Alors que, par exemple, une muslime, elle en aura tout autant envie que cette party girl, mais sa culture, son éducation religieuse, etc., fera que ça sera peut-être beaucoup plus compliqué, ou en tout cas beaucoup plus compliqué dans le même contexte que la party girl. Peut-être que vous arriverez à coucher quand même avec cette fille, mais à l'écart des regards, à l'écart du contexte social, vraiment dans votre cocon à vous. Là, elle pourra peut-être se débloquer parce que l'envie sera présente. Alors que par exemple une party girl, je pense qu'elle en a rien à foutre de se faire voir par par les gens, par ça sera différent.
Mmh, ouais. Et voilà. De la même manière, tu vois, pour teaser un petit peu un prochain épisode qu'on fera sur les filles indonésiennes, si on peut faire juste une comparaison, c'est que la phrase d'attraction dure 10 fois moins vite que lorsque t'es avec une occidentale par exemple. C'est que la phrase d'attraction, à partir du moment où t'as ouvert, à partir de à partir du moment où t'as ouvert, t'es déjà attirant.
Ouais, non, c'est vrai.
Mais ça, on expliquera un peu, on racontera nos anecdotes sur les filles indonésiennes, comment elles se comportent, comment elles sont par rapport aux occidentales, et puis même dans l'absolu. Je pense que ça sera hyper intéressant parce que nous, on en découvre presque tous les jours sur les comportements, sur les enjeux qu'il y a, qui sont réellement différents pour le coup.
Ouais. Eh bien, très bien, on va passer à la prochaine question. Combien de conquêtes avons-nous mutuellement en commun en commun, plus de 200?
Non, mais moi j'ai arrêté de compter à partir de 300, je crois.
On va pas répondre à cette question.
C'est une blague, je précise. Ils vont même si c'est le cas, en fait, vous le saurez pas.
Ouais. Est-ce qu'on peut donner une fourchette basse? On est à plus de 50 tous les deux. Le reste, on n'a pas envie de le dévoiler parce que voilà, on va pas à chaque fois se faire juger sur le nombre de conquêtes. Si on vous donne le chiffre maintenant et que je sais pas moi, dans 6 mois, il a évolué de 5, on va se faire tailler.
Non, donc, mais même au-delà de ça, je veux dire, c'est un peu comme demander combien t'as d'argent sur ton compte ou combien de fois t'as fait ça.
Enfin, surtout publiquement.
C'est des trucs, si tu veux, on peut très bien en parler entre nous, voilà, mais bon. On va pas le dire. Et puis, comme tu le dis, en fait, ça sert à rien de se mettre des pressions pour rien, de donner des chiffres comme ça, ensuite de devoir se justifier de ceci, de cela. Donc, ouais. Voilà. Et puis, en même temps, tu sais quoi, il y a un truc que je trouve encore mieux que ça. C'est le fait que tout le monde se pose la question et qu'il y a un mystère autour de ça. C'est que tout le monde, comme ça, c'est encore plus drôle.
Ça me fait penser, je rigole, parce que ça me fait penser aux chiffres qu'on voit des fois dans les mails de certains concurrents. Enfin, concurrents ou de personnes à la thématique.
Sachez un truc.
Et c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant à chaque fois qu'on voit ces scores-là.
Sachez un truc, c'est que très souvent, quand quelqu'un qui essaie de vous vendre, en tout cas qui communique sur son chiffre, avec combien de filles il a couché, et que ce chiffre vous paraît beaucoup, sachez que dans la grande majorité des cas, ce chiffre est faux. Parce que c'est... Nous, on le sait, on est dedans. C'est mathématiquement... Alors, il y en a qui jouent avec ça, qui sont encore plus... sont des huberlus, qui jouent, c'est-à-dire qu'ils vous font croire qu'ils ont tant de conquêtes, alors qu'en fait, ils ne le disent pas vraiment et qu'ils font passer l'information sur quelqu'un d'autre. Enfin, en marketing, c'est très bien fait, mais en fait, ça vous insinue en erreur et vous pensez qu'ils ont X conquêtes qui, en fait, mathématiquement, sont impossibles.
Oui, puis de toute façon, vous le voyez très vite, quelqu'un qui a des conquêtes. Si, par exemple, quelqu'un vous dit... admettons, hein, je sais pas, qu'il a 100 conquêtes, passez un peu de temps avec lui, vous allez très vite voir si c'est possible ou si ce n'est pas possible.
Et même sans passer de temps avec lui, il suffit de regarder combien de fois il est sur le réseau, il suffit de regarder de quel âge il a, il suffit de regarder qu'est-ce qu'il a vécu un petit peu, qu'est-ce qu'il transmet, et après on s'en rend bien compte. Au son, tu fais des maths, tu dis ok, s'il a couché avec tant, tu divises par le nombre de mois, par le nombre d'années, tu dis ok, est-ce que tu crois qu'il a le temps, est-ce qu'il a eu le temps? Non, c'est juste pas possible.
Ouais.
Et puis il y en a, oui, mais bon.
C'est des tueurs, c'est des mecs vraiment passionnés.
Mais dites-vous un truc, c'est que les plus grands tueurs, ils le disent pas, justement.
Ouais, ils sont plutôt calmes avec ça. La question suivante est assez intéressante, j'aime bien. Mais elle est difficile quand même, donc t'es prêt? Donc, quelle est la chose...
Mais c'est quoi, c'est la question de notre ami André ou c'est...
Oui, c'est dans sa lignée, ouais.
Ok.
Quelle est la chose, je vais te la poser directement à toi, après tu pourras me la rendre, il n'y a aucun problème là-dessus, mon petit. La chose que qui t'a le plus marqué, que t'as le plus retenu avec toute l'expérience que t'as avec les femmes. Ah, c'est pas facile, hein, comme je t'avais averti.
Ah non, mais là, faut y réfléchir en avance, comme ça.
Ouais, faudrait y réfléchir.
Qui m'a le plus marqué? Il y a plein de trucs qui m'ont marqué, mais là, faudrait que je pense, je sais pas, moi, dans la semaine, tu vois, parce que sinon, y a un truc qui te vient.
Mais peut-être un peu avec la conversation qu'on a eue avec Chris cet après-midi, c'est la véralité. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand tu es capable de comprendre les enjeux implicites de tout le cosmos relationnel.
Ouais.
C'est ouf, en fait. Et ça se résume un petit peu.
Il y a beaucoup d'économie, beaucoup de physique.
C'est ça. Et ça se résume un peu à... C'est incroyable comment les hommes sont naïfs avec les filles, tu vois. Et c'est ça.
Ouais, ouais.
C'est la phrase qui m'a marqué avec Chris, et c'est vrai, c'est est lecture en fait. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple,
tout est lecture des enjeux.
Quand une fille, elle vient avec vous à un rendez-vous, vous restez une heure avec elle, et qu'à un moment, elle vous dit, il faut vraiment que j'y aille parce que je suis fatigué. Demain, j'ai un avion qui démarre tôt, enfin qui décolle tôt, et j'ai besoin de me reposer. C'était cool de passer du temps avec toi. On se reverra peut-être plus tard. Et la fille se barre, tu vois. Le mec naïf va croire à ce qu'elle a dit, tu vois. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que il faut comprendre pourquoi cette fille vous a dit ça en fonction de ce contexte. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite une fois que vous n'étiez plus là? Et c'est tout ça que moi, je trouve fascinant dans les rencontres
le sous-jacent.
C'est ça. Et si vous êtes naïf, vous pensez que vraiment elle a son avion le lendemain,
etc.
Ce qui est peut-être vrai, mais c'est souvent rare. C'est souvent, enfin entre guillemets, c'est tout dépend le contexte évidemment.
Mais non, mais ce qui est peut-être vrai,
c'est rare. Et la terrible sentence pour les mecs, c'est d'y croire et de pas comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et donc ça peut s'appliquer pour plein de trucs. Pour les dates, pour les rencontres, pour votre vie de couple. Et moi, dans toute mon expérience, c'est cette vérité-là. Maintenant, je pense que je suis quand même capable de comprendre à minima 90% des situations, même si ce n'est pas instantané, mais c'est de plus en plus instantané. Donc, c'est-à-dire, je suis en situation réelle et je peux réussir à me calibrer parce que je comprends en temps réel et donc j'arrive à m'adapter et du coup m'en sortir beaucoup mieux qu'avant. Des fois, ce n'est pas possible parce que X raisons. Et je comprends après, mais je pense que je suis capable de comprendre à peu près 90% des situations. Et ça, tu gagnes en maturité, c'est incroyable, tu vois. Et ça t'évite d'être naïf et de te comporter comme un nice guy, de te comporter comme un... Ça t'évite d'être pas attirant, en fait, dans tes interactions avec les femmes. Et je trouve que ça, c'est très important. Alors, je sais pas si j'ai été clair dans l'explication, mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment la compréhension des relations et surtout la compréhension implicite des situations. Quand vous êtes capable de lire ça, c'est un énorme pas en avant parce que vous allez pouvoir vous adapter, etc.
Il y a une question qui est intéressante à se poser soi-même, c'est quand la dernière fois
que vous n'aviez pas compris,
que je suis tombé sur le cul par rapport à quelque chose que je pensais avoir compris qui en fait n'était pas le cas.
Ouais.
Si c'est il y a trop longtemps, je fais un peu du Oussama Hamar là, tu sais, sur des règles comme ça, mais si c'est il y a trop longtemps, c'est que c'est probablement un mauvais signe et que vous êtes passé à côté de plein de choses. Tu vois, je pense qu'il faut régulièrement. Alors, plus on gagne de l'expérience, moins on est à côté de la plaque, tu vois. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois et c'est comme ça que j'ai progressé. Et surtout, c'est pas uniquement se dire j'ai eu tort terminé, c'est essayer de comprendre, de creuser pour pas que ça re-arrive. C'est toujours le principe. Mm-hmm. On fait une erreur ou il y a quelque chose qui se passe, on apprend pour pas que ça se reproduise. Je pensais que c'était comme ça, j'en étais persuadé, ou la situation était telle quelle et je l'ai prise comme telle quelle. Et c'est quelques semaines plus tard, le fameux. Ah d'accord, tu vois, ce fameux truc là, quand t'as ce truc là, ah d'accord, c'est que tu viens de percer, tu viens de mettre à jour le sous-jacent d'une situation que tu ne pensais pas, que le sous-jacent que tu ne pensais pas qui existait. Donc en fait, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Se dire voilà, moi je pensais ça, c'était comme ça, c'était le visuel, on m'a dit ça, tu vois, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer, ceci cela, bon ok, tel quel. Et en fait non, il y avait tout cet enjeu derrière. Et alors il y a des fois, on peut pas tout inventer, tu vois, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un. Tu peux pas inventer que peut-être elle est dans une situation très compliquée parce que tu l'as juste vue sur un date, admettons, et puis elle a une situation très compliquée avec un ex, et puis en même temps il y a quelqu'un qui est revenu il y a pas longtemps. Il y a des choses qui peuvent t'échapper, tu vois. On n'est pas des mages ou des génies qui ont la boule de cristal. Mais par le non-verbal, par la discussion, par l'énergie qui se dégage, par l'expérience, tout ça, mais
la répétition des situations,
des signes d'intérêt, de désintérêt, de verbal, non verbal, de tout ça, de tout ce qui se cache, et puis d'arriver à, tu peux mettre à jour, tu dis tiens, par rapport, c'est un peu comme un algorithme, par rapport à ce que j'ai là, voici
le
dans ta tête, voici les possibilités par rapport à ça.
Ouais.
Et alors le naïf, c'est celui qui va se dire tiens, la possibilité, elle est 100%, c'est ce qu'elle me dit, voilà. C'est-à-dire que ce qu'elle me dit, je dois rentrer, c'est 100% le cas que cette situation est là. Et puis celui qui est plus avancé, c'est ok. Alors il y a cette possibilité, mais il y a également peut-être cette autre possibilité-là. Que, en fait, peut-être qu'elle envoie un gros signe pour dire c'est ma dernière soirée, est-ce qu'on la passerait pas ensemble, mais elle n'ose pas le dire. Admettons, c'est vraiment un exemple. Et puis, notre possibilité, c'est, peut-être qu'elle a reçu un message d'une copine qui lui propose d'aller en club et en fait, elle veut se débarrasser de moi parce que, je suis pas son date favori. Admettons, tu vois. Ou d'autres choses, peut-être qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle.
Des choses comme ça.
Et ça, c'est des choses qu'avec les smarts, tu dis, ok, voici toutes les possibilités qui sont possibles. Et puis, en fonction de comment tu vas affiner, tu vas te dire, bon, mais là, il y a plus de chances que ça soit ça. Et c'est comme ça que. Et ça, c'est un bon truc, quoi. D'arriver à avoir le. Pas que la couche externe, mais toutes les strates qu'il y a dessous. Et en fait, quand tu les vois de plus en plus.
C'est la base du pick-up. Hein.
T'es de plus en plus presque.
Mais tu lis les situations en avance.
Tu perds presque la magie de ce qu'on t'apprend, de ce qu'est l'amour. Tu vois, de une certaine genre. Tu sais, avec la chimie, des trucs comme ça.
Ah, ben ça, c'est.
Non, ce sont que des ficelles d'intérêts, d'enjeux de chacun. Et voilà.
Bon, je pense qu'il y a quand même des belles histoires chimiques, tu vois, mais.
Ah mais bien sûr.
Mais en tout cas, sachez que quand vous êtes capable de lire les trucs, c'est d'une jouissance. Quand vous avez l'action, le levier d'action dessus, c'est d'une jouissance imparable.
Comment on fait pour l'avoir ce levier ?
Ah ben on s'inscrit à la newsletter, on reçoit les mails et ensuite on participe potentiellement au générateur de date, notre programme, quand il y a des ouvertures de portes. Et d'ailleurs, est-ce que.
Il y en a eu un récemment.
Il y en a eu une récemment.
Ou en ce moment. Regardez, inscrivez-vous. Non, ça sera trop tard.
Mais tu vois, c'est marrant. J'ai envie de. En fait, ça serait bien aussi qu'on fasse des podcasts. Je sais pas ce que t'en penses sur des situations qui. Du réel. Tu vois, par exemple, la situation de hier et les deux Australiennes. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé débattre en te racontant et parce que c'est intéressant pour les gens aussi, tu vois.
Ouais, mais après, moi, c'est compliqué. Je suis pas là. Donc, j'ai qu'une version. C'est. Qui est pas forcément fausse, mais qui est ton interprétation audiovisuelle. Puis ouais. Moi, je suis à l'aveugle. Je suis yeux bouchés. Enfin. Yeux bandés, trucs bouchés, donc c'est difficile.
Ouais, après bon, tu vois par exemple hier, c'était dans cette situation-là avec ces deux meufs-là, j'étais capable de lire ce qui se passait, mais j'étais pas capable de inverser la tendance, tu vois, parce que pour plein de raisons qu'on va pas énumérer maintenant, mais c'est vrai que j'étais là en train un peu de subir la situation et j'ai pas réussi à
On gagne pas tous les coups.
À débrayer.
De toute façon, on va pas tous les coups. Personne ne va savoir de quoi on parle. Mais,
ouais.
Mais on gagne pas tous. Et ça, faut se le dire aussi. Hein, je veux dire, attention. Hein, c'est pas parce que vous savez lire grandement les enjeux que vous avez gagné à tous les coups.
Oui, et puis une fois de plus.
Des choses que vous contrôlez pas.
Ouais. Et puis une fois de plus, quand vous ne gagnez pas, c'est un peu cliché, mais on apprend parce qu'en fait, il s'est passé ça. J'étais dans telle position, tac. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes capable d'analyser, donc qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois que ça m'arrive pour ne pas me retrouver dans la même situation, et vous progressez petit à petit, et c'est comme ça que vous devenez meilleur. On va passer à la dernière question.
Très bien.
Comment s'est-on rencontré Jérôme ? C'est à toi.
Alors moi, le souvenir que j'ai, on n'a pas le même, parce qu'on a déjà discuté. Marrant. Et en plus, c'est marrant, Chris nous a posé la même question tout à l'heure.
Oui.
Moi, le souvenir que j'ai, c'était... Donc déjà, il faut savoir que tous les deux, on est originaire de la France, du sud-ouest de la France, plus précisément d'Ax, une petite ville thermale dans les Landes. Et en fait, on a été mis en contact par un ami commun qui était mon voisin, qui s'appelle pas Jean-Marie, mais...
Qui s'appelle Olivier ?
Ouais, oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le tais, on dit rien sur lui. Mais... Et voilà, en fait, c'était un pote à toi. Moi, c'était mon voisin, qui était aussi mon pote, que je connaissais depuis très longtemps, forcément. Et puis, à un moment donné, on était mis en commun. Mais moi, le premier souvenir que j'ai, c'était au fait de Mont-de-Marsan.
Oui, mais
c'est la première fois, je crois, que je t'ai vu.
Ouais, mais je pense que c'est parce que. Moi, je compte pas cette fois-là, parce que c'était comme si, par exemple, t'as été invité un pote une fois et tu vois, il s'est rien passé. On s'est pas revu après pendant au moins des mois et des mois.
Non, tu mais vois, moi,
tout ce
moi,
qui s'est fait, c'est.
Ouais.
Tout ce qui s'est
je me souviens de cette soirée.
C'était la pétanque, tu vois. Mais elle était bien, cette soirée. C'est les fêtes de Mont-de-Marsan. Hein,
c'est les fêtes de Mont-de-Marsan. Il m'avait dit, ouais, vas-y, c'était quoi ? Ça va être un jeudi ou un vendredi soir en plein été, donc tu sais, en grandes vacances. Il me fait, ouais, viens, tu veux venir fête de Mont-de-Marsan ? Olivier qui me dit ça. Et avec ses potes. Donc il était toi, il y avait
Johan.
Johan.
Il y avait sa cousine, il y avait Hugo, je pense, son cousin espagnol.
Ouais, peut-être.
Aussi, ouais.
Peut-être. Mais j'en connaissais aucun sauf Olivier.
Ouais.
Ouais, et ce qui m'avait fait marrer, c'était que vous aviez. Je sais pas si c'était toi qui avais fait ça, ou si c'était. ou c'était je sais pas qui. Le pot de whey Nutrimuscle, le pot de ciment, avec le mojito dedans.
Ouais, c'était moi. C'était moi, affirmatif. Ah, mais ça fait mouche, étant donné qu'il n'y avait que des bodybuilders. Il y avait Sean, c'est là où tu te souviens ?
Non.
Un tank.
Ben
c'est
non,
simple,
mais
un tank.
Non.
Parce que t'étais à l'appartement aussi, non ?
Ouais.
Donc il y avait Paul Huguet, il y avait tout le monde. Ouais.
Oui,
donc là,
j'avais dormi sur un fauteuil.
Oui.
Sur un fauteuil comme ça.
Oui, mais il y avait toute la clique. Ben oui, non, mais là, parce que je savais, il y avait Romain.
Mais Olivier, Chan. Olivier, un barjot, il balançait des citrons sur les murs.
Non, mais là on avait poussé et puis tout le monde était fracassé. En plus, c'est Polo, tu sais, donc Polo, c'est un peu open bar quand t'es en soirée chez lui. Bon, c'est la famille, donc.
Mais en plus, il y avait beaucoup de temps qui avait été passé dans l'appartement et pas tant que ça finalement à l'extérieur.
Oh, quand même.
Ouais.
Alors, je me souviens qu'on avait bien charbonné en plus des meubles. J'ai des souvenirs. Après, on avait teasé terrible. Là, à l'époque, c'était il y a longtemps. Hein.
On n'était pas du tout branché.
Non, on n'y était pas encore. Pas du tout.
Enfin, dynamique sociale, confiance, séduction.
Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, on s'est rencontrés plus tard, vraiment. Ça, c'était. Puis on avait 25 ans, non? Quelque chose comme ça.
Peut-être, quelques années après. Moi, le souvenir que j'ai, c'est oui, effectivement, peut-être la pétanque. Et puis un jour, t'étais venu chez moi. Parce que t'avais mal à l'épaule, enfin t'avais toujours ton problème à l'épaule et au coude, et puis je t'avais regardé.
Ah ouais?
Tu te rappelles pas de ça? J'avais une table portative, puisque c'était entre, ça doit être ma 3e ou 4e année d'études, pendant les grandes vacances, encore une fois.
Mais peut-être.
Et j'avais une table bleue portative que je faisais pour les consultations un peu, tu sais, pour m'entraîner.
Et t'avais montré ton matos extérieur, parce que j'ai un souvenir, je viens chez toi, je vois ta peut-être. Piscine et tes haltères, que tu faisais un peu de muscu, t'étais pas la salle à l'époque.
Je faisais juste un peu de exercice avec les poids, tout ça.
Et je me souviens.
Et j'avais mis la table dehors et puis je t'avais regardé vite fait. Elle m'avait servi cette table. pas dans ce cas.
Ah bon?
Pas dans ce qu'on pense. Non, pas dans ce qu'on pense, mais par contre, j'avais fait. Alors, pour l'anecdote, tiens, on y est. Celle-là, je l'avais jamais racontée. J'avais fait venir une fille pour pareil de la même manière. C'était en fait, elle avait des. Elle s'appelait Alicia, je dirais pas son nom. Je m'en rappelle plus, je crois. Et c'était une amie en commun avec Guillaume. Et pendant des fêtes ou je ne sais quoi. Et puis, je lui avais dit, viens, je vais te regarder parce qu'elle avait mal au dos. J'en sais rien, on s'était en échange des messages. Elle était venue et c'était le prétexte pour la faire venir chez moi pour lui regarder parce qu'elle avait mal au dos. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études d'ostéo, j'ai pratiqué l'ostéo pendant 5-6 ans. 6 ans. Et donc là, c'était un peu vers la fin de mes études, mi-études. Et je l'avais fait venir comme ça. Et donc, je l'avais un peu manipulé, tout ça. Et ensuite, on avait passé la journée, on s'était baigné. Et puis, c'était très bon moment passé avec elle pour le coup.
Ah ben voilà.
Sans spoiler, il y a rien à spoiler, on a compris, mais c'était
vraiment cool, c'était fluide. Ça
ouais, j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit, tu vois, ça fait partie des expériences qu'on avait tous vivre. Faire venir quelqu'un, et puis elle était goulée, tu vois, j'étais content. Et puis, bref, je veux passer les détails, on est en public. Mais très très bien la piscine, tout ça, le rapprochement, le truc. Et c'était à cette époque-là, j'étais un tout petit peu dolto, je connaissais un peu dolto, tout ça. C'était vraiment très très léger. Il y avait pas de. C'était le début, quoi.
Ok.
Bref. Donc voilà, le souvenir de la rencontre. Et après, comment...
Oui, ben voilà. Moi, j'ai vraiment... En fait, je pense que j'ai vraiment focalisé sur la pétanque parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, mais c'était très décousu. Par exemple, les fêtes, c'était un temps. L'ostéo, c'était des mois, voire des années plus tard. Ou en tout cas, des bons mois plus tard. Et la pétanque, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé une fois et qui est devenu régulier. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec trois potes à kiffer ces moments-là et donc on y allait quasiment toutes les semaines. Ouais. Et c'est comme ça qu'ensuite, à force de discuter dans ces moments de pétanque et de rigoler, ben on a commencé à parler de meufs, on a commencé à parler de séduction, etc. Et puis finalement, je pense qu'on est un peu accroché sur cette envie de créer des trucs.
Au début, Ouais. Ouais, bah après, ouais, c'est... après
puis voilà, quoi.
Comme dirait l'autre dans la vidéo, the rest is literally history.
History. C'est dans quoi, ça, putain?
Dans la dernière vidéo sur les couples.
Ah oui,
and the
ah
rest
oui.
is history. The ah rest
oui.
is later.
Ah oui, le monsieur qui se fait fourrer terrible par Canardland. Ouais, c'est marrant.
Et pourtant, il a une super vibe. Mais bon, c'est pas ce qu'il cherche.
Ouais, puis il est plutôt mignon.
Et juste pour faire un truc par rapport à ça, tu vois, un des meilleurs conseils pour se faire un cercle ou pour en tout cas être, c'est en fait revoir les gens régulièrement. C'est souvent, c'est la clé. C'est
proposer.
Pour ça que les activités, ouais, proposer les activités sportives, les activités extra, je dirais extra conjugales, extra scolaires si vous êtes encore dans les études. Et si vous l'êtes plus, si vous êtes dans un cadre professionnel, essayez d'être souvent dans les mêmes lieux, de rencontrer souvent les mêmes gens. C'est comme ça qu'on connecte, c'est comme ça qu'on finit par lier des amitiés entre guillemets, parce que c'est très difficile de lier une amitié, de dire tiens, je vais aller juste à un endroit une seule fois et je vais me trouver des potes. C'est pas comme ça que ça marche.
Non.
L'amitié se construit sur le fait de revoir souvent les mêmes personnes.
Toujours pareil, hein, c'est vous construisez pas du muscle en vous pointant à la salle une fois, vous ne réussissez pas à draguer des filles en lui parlant une fois entre guillemets, enfin pour la plupart du temps. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut répéter, alimenter, mettre des efforts, investir et ensuite vous récoltez les fruits.
Ouais.
Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on passerait pas à la question suivante?
Si, la tienne ou la mienne?
La tienne.
On a un autre audio, un vocal, ouais. Que nous a envoyé, je dirais pas qui, je vais l'appeler, je sais pas moi, Gédéon. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ce prénom.
J'ai 30 ans, j'arrive à Hook avec des filles qui ont environ 10 ans de moins que moi. Et c'est des bonnes interactions, je sens de l'intérêt, il y a des prises de contact, etc. Mais à chaque fois qu'il y a la question de l'âge qui arrive dans la conversation, j'ai l'impression de perdre un peu l'intérêt, en tout cas que ça les refroidit. Donc ma question c'est ça, comment éviter la perte d'intérêt, la sensation de refroidissement de la part des filles. En gros, comment vous arrivez à gérer un grand écart d'âge, environ 10 ans, comme en game avec des filles qui ont 10 ans de moins que moi. Merci les gars.
Alors c'est marrant parce que finalement, sans avoir regardé les questions à l'avance, c'est une thématique très âge aujourd'hui.
Qui revient, ouais.
Qui revient beaucoup.
Moi, j'ai une réponse rapide à faire. Je pars du principe que si tu rentres en interaction avec une fille qui a 10 ans de moins et au moment où tu mets l'âge sur la table, ça pose un problème, elle se déchauffe. C'est juste que ça lui plaît pas que t'aies 10 ans de moins et que t'as pas besoin de batailler avec elle. Parce que généralement, enfin moi de mon expérience, j'ai 33 ans, tu vois, enfin...
Non, dis pas. Non, je déconne, vas-y.
Non, mais je veux dire, il y a une semaine, on a couché avec deux filles de 19 ans, donc tu vois, 14 ans d'écart. En fait, c'est juste par la des filles qui ont 10 ans de moins qui sont intéressées. Une fille ne sera jamais, et écoute-moi bien, ne sera jamais désintéressée juste parce que tu as 10 ans de plus. Si elle est désintéressée, c'est que de base, ça ne lui plaît pas que tu aies 10 ans de plus. Ça arrive, il y a des filles qui ont du mal avec ça. Voilà.
Ça peut bloquer.
Ouais, c'est ça, elles ont du mal avec ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où il y a de l'attraction. Au moment où tu donnes ton âge, la meuf se met une barrière mentale exceptionnelle et c'est impossible d'y déroger. Donc, moi, mon conseil, c'est ne te prends pas la tête à essayer de convaincre une meuf qui est déjà préconvaincu que t'es pas le bon candidat pour elle. Ouais. Va voir des meufs qui sont plus jeunes, qui apprécient justement cette maturité. Encore une fois de plus, hier j'étais en date, un autre exemple, et cette fille me disait, ma règle d'or à les mecs, c'est je ne date jamais en dessous de mon âge. Et son ex, il avait 20 ans de plus qu'elle. Et son ex d'avant, il avait... elle a 25 ans, il avait mon âge, donc 8 ans de plus. Tu vois, donc pour certes, et cette fille a 25 ans. Donc pour certaines filles, il n'y a aucun problème. C'est même plutôt un super avantage. Donc voilà, mon seul conseil, c'est ne bataille pas avec les filles qui ne t'acceptent pas et va voir des filles plus jeunes qui t'acceptent. Et tu vas le voir très vite. Hein. Les meufs qui t'apprécient, quand tu leur donnes ton âge, elles s'en branlent, elles ne bronchent pas. Elles font « Ah ok, très bien, aucun problème ». Voilà. Et sinon, une autre petite technique que toi tu fais souvent, il me semble.
Ah bon?
Ouais, c'est en fait tu demandes à la fille, tu me donnes quel âge?
Oui, bon, ça c'est t'emmerder.
C'est un peu pour jouer aussi. Et admettons,
j'avoue, je le fais tout le temps.
Ouais, voilà. Et généralement, elle va te donner plus jeune. Tu vois, par exemple, ça nous est encore arrivé. Vas-y, devine quel âge j'ai. Elle va te dire, par exemple, 26, 27. Tu fais putain, t'es trop forte. T'as trouvé. Et du coup, inconsciemment, l'âge qu'elle te donne, c'est aussi l'âge qui est tolérable pour elle généralement. Donc si elle te donne cet âge, tu confirmes.
En fait, c'est ça.
Et Inch'Allah.
Souvent, s'il y a un intérêt de base que tu lui plais, lorsque. En fait, elle va se trouver dans sa tête toutes les raisons pour que tu colles à ce qu'elle espère de toi ou à ce qu'elle imagine déjà de toi, tu vois. Et, admettons, tu vois, si on prend l'exemple inverse, s'il y a une fille qui te plaît, si elle te demande d'après toi, j'ai combien d'ex dans le passé. Tu vas essayer de deviner avec un chiffre que tu espères être réel. Tu vois, sauf si tu es un vrai gamer et que tu essaies de faire de la manipulation et que tu essaies de faire des trucs de chambrée. Mais tu vas avoir le premier chiffre qui va venir en tête, ça va être quelque chose que tu vas espérer que c'est le cas. Et ben, on va dire dans l'inverse, ça peut être un peu le cas aussi. Ça peut être la même chose. C'est-à-dire que si elle est intéressée par toi, lorsque tu vas lui demander de deviner ton âge, elle va te donner un chiffre qui correspond à ce qu'elle aimerait ou en tout cas dans une fourchette de ce qui lui conviendrait, tu vois. Sauf si elle te chambre en disant 45 alors que t'en parais 25, tu vois. Et ce qui est pas mauvais signe non plus. Donc ça, c'est un truc que je fais régulièrement, j'avoue.
Ouais, alors...
Juste un autre truc très rapide sur cette question, parce qu'il a l'air de dire que c'est quelque chose qui est très récurrent, tu vois. C'est qu'à chaque fois, je me démerde bien, mais par contre, à chaque fois que je suis avec une fille qui est 10 ans de moins, ça se passe très bien jusqu'au moment où je donne l'âge et que ça bloque. S'il y a vraiment de l'attraction et que ça se passe comme ça, soit il a pas de chance et toutes les filles avec qui il discute, elles n'aiment pas les mecs plus vieux. Et dans ce cas-là,
ce
qui est très étonnant. Soit il y a un petit grain de sable quelque part et en fait il cherche pas au bon endroit. C'est-à-dire que là où il cherche c'est la question de l'âge. Peut-être qu'il faudrait chercher la question de l'attraction. J'en sais rien, je ne te connais pas, Gédéon. Mais est-ce que il faut faire attention de pas confondre intérêt slash affection avec véritable attraction. Ouais. Peut-être qu'ils pensent que les filles de 20 ans avec qui ils discutent, il y a de l'attraction et qu'à partir du moment où ils donnent l'âge, il y a une perte d'attraction. Peut-être qu'en fait, c'est juste un simple intérêt qu'elles partagent, qu'elles sont bonnes enfants, qu'à ce stade-là, elles ne l'imaginent pas du tout comme un candidat potentiel, ne sont pas tant attirées que ça. Il y a juste du bon échange, mais qu'il n'y a pas une véritable attraction. Lui, il pense qu'il y a de l'attraction. Et en fait, l'âge n'est pas vraiment le truc qui fait le turn-off, c'est juste que ça se termine de cette manière-là, elles sont plus intéressées. Ou alors elles se disent, bah tiens, en plus, il est plus vieux, donc de toute façon, je suis pas intéressé. De toute façon, je suis pas intéressé, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réellement de base. Et lui, il prend ça comme ah ben c'est à partir de ce moment-là que ça s'arrête. Il y a ces deux choses, tu vois. Nous, on n'en sait rien, on voit pas comment tu te comportes, on sait pas, mais c'est juste, pense-y.
Et il y a une dimension aussi, je sais pas dans quel contexte tu rencontres ces filles-là, mais si par exemple c'est journée ou à la salle, etc., il peut carrément y avoir une barrière sociale, tu vois. Si, par exemple... parce que moi, je sais qu'à la fac, par exemple, certaines meufs, quand elles ont 20 ans et que tu les démarches et que tu as 30 ans et que tu fais pas du tout partie de leur contexte, c'est-à-dire fac, etc., et que c'est, par exemple, en journée ou dans la salle de sport, elles peuvent se mettre directement la barrière à se dire « Oula, tout le monde va dire que je me tape un vieux, etc. » Et donc, elles vont couper net. En revanche, je pense qu'en soirée, ça sera beaucoup moins le cas parce qu'avec l'alcool, elles auront moins cette pression de « il a 30 ans », etc. Donc, il peut y avoir ça. Et ensuite, dans quelle ville tu habites ? Peut-être que, justement, tu n'es pas dans une ville où les filles de 20 ans, elles ont en tout cas l'habitude, tu vois, de côtoyer... Tu vois, par exemple, une fille comme Paris... Une ville comme Paris, ah. je suis pas du tout étonné que les filles de 20 ans n'aient aucun problème, la plupart, en tout cas, avec des hommes beaucoup plus matures. Alors que par exemple, si tu vas par exemple, à Dax, mais peut-être que les filles de 20 ans, quand tu vas aller les charbonner, que tu as 30 balais, 35,
il y a une vraie différence de...
culturelle, ouais, de conditions, d'environnement, tu vois.
De génération aussi, tu vois. C'est vrai que quand tu as 30 ans dans une petite ville... Quand t'as 20 ans dans une petite ville et 30 ans, tu comportes pas de la même manière, tu penses pas de la même façon que quand t'es dans une très grande ville où il y a une grosse hétérogénéité, exactement, où finalement l'écart d'âge a moins de sens. Il faut dire aussi un truc, c'est que l'écart d'âge a de moins en moins de sens ou est moins important plus tu vieillis. C'est-à-dire que ça, rappelle-toi, lorsque tu avais 15 ans et que tu sortais avec une fille de 14 ans, ok, quand tu sortais avec une fille de 2 ans d'écart, c'était quelque chose. Moi, je me rappelle au lycée, tu vois, c'était genre, oh putain, elle a 2 ans de moins, donc elle est vraiment plus vieille. Ou inversement, quand il y avait une fille de 3e qui se tapait un mec de 1ère, c'était vraiment, oh putain, elle se tape
un vieux.
Ouais, un vieux. Voilà, 2 ans d'écart à cet âge-là n'a pas la même signification que 2 ans d'écart à la trentaine, et qui n'a encore moins d'importance que 2 ans d'écart lorsque t'es autour de 60, tu vois. Un couple qui est 60-65, c'est beaucoup moins choquant. Ouais, voilà, on considère que c'est le même âge. Parce que je pense que la vie lisse les petites différences, tu vois. Ouais. Plus tu gagnes de l'expérience, plus ça lisse les différences de cet âge-là. Alors que entre la seconde et la terminale, il y a une grosse différence parce qu'il y a deux classes de différence où tu apprends des choses, où il y a peut-être la puberté qui intervient avant.
Ouais,
mais
des gros changements.
Tu vois, des changements, etc. Donc, tu as l'impression qu'il y a une plus grosse différence. Voilà.
Et dernier petit point pour finir cette histoire, il y a aussi peut-être une petite problématique de comment tu te comportes au moment où tu annonces ton âge. Parce que je sais qu'il y en a, ils anticipent la réaction négative de la différence d'âge. Et donc, quand ils vont le dire, ils vont avoir une posture de un peu sur la défensive, tu vois, en mode « Ah, ben, j'ai 10 ans », tu vois, en mode « C'est pas normal », tu vois. Et si tu penses ça quand tu parles à cette fille...
Ça transmet le doute.
Eh ben, ça transmet le doute et tout de suite, la fille, elle va douter. Elle va se dire « Oula, c'est bizarre, sa réaction est bizarre, donc ça doit être bizarre de qu'on se parle. » Et donc... Je coupe net.
Il y a rien de plus facile à transmettre que le doute et la peur.
Ouais.
C'est ça va très vite. C'est-à-dire le doute ou le malaise ou en tout cas une situation inquiétante, ça se transmet hyper vite. Il y a qu'à voir. Moi je fais comme ça. Je fais, oh, putain, tu vas te retourner, tu vas avoir peur d'un coup. Tu vois, je t'ai montré des signes de peur.
Ouais.
Tu vas beaucoup plus facilement que la transmission d'une onde positive, d'une énergie positive qui prend un peu plus de temps. Mais je pense que le cerveau est câblé comme ça aussi. On est beaucoup plus câblé pour réagir, capter et être très à l'affût de tout ce qui est
inquiétant bizarre, ouais.
Et dangereux. Donc voilà, donc quand tu transmets une inquiétude ou un danger par rapport à ton truc d'âge, ça se répercute très vite en face. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir. Tu crées un malaise en 2 secondes. Toi-même, tu te mets dans un état de malaise. La personne en face de toi est dans un état de malaise quasiment immédiat.
Ouais, et puis moi je souligne ça parce que je sais qu'avant ça m'arrivait, tu vois, quand je m'adressais à des filles et que j'avais beaucoup moins d'expérience, j'avais déjà cette façon de penser qui me rongeait entre guillemets. Je me disais, bah attends, la fille a 7 ans de moins, elle va mal le prendre et tout. Et donc j'étais trop sur la défensive quand je devais annoncer mon âge, j'étais un peu pas en confiance. Alors que maintenant, je m'en amuse. Quand j'ai 10 ans de plus, je lui dis j'ai 10 ans de plus et je la regarde vraiment dans les yeux. Et en fait, maintenant je suis pas étonné, mais avant, quand j'ai commencé à bien le faire et avoir des bons résultats, je me disais, en fait, j'étais étonné des réactions. Les meufs s'en branlent. Les meufs s'en branlent. Et une fois de plus, regarde la semaine dernière, les deux de 19 ans.
Oui.
Non, mais c'est pas une généralité, mais je veux dire, mes ex, elles ont 23 ans, ça fait quand même 10 ans d'écart. À aucun moment, elles m'ont dit « Oh, t'es trop vieux, t'as 10 ans de plus », tu vois, à aucun moment, donc voilà.
Sans oublier que certaines vont être rédhibitoires par rapport à ça,
faut
toujours se le dire, voilà, il n'y a pas de règle fixe.
T'es prêt? On passe à la prochaine question et on joue…
Est-ce que t'aurais pas, je sais pas, pour là, sur cette thématique un peu de l'âge, différence d'âge, rapidité, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui traiterait des générations, des âges?
Oula, tu me poses une colle.
Écoute, vas-y, attends, mets au centre parce que je crois que je suis focus. T'es focus, ouais.
T'es focus ?
Non. Vas-y.
T'es focus ?
Ouais, c'est bon.
Alors, petit jeu. Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors.
Donc là, je te propose un petit jeu. Donc, je vais te lire des questions. Et si t'as envie d'y répondre, tu dis valider. Et puis, si t'as pas envie de répondre, tu dis poubelle.
Okay, bon,
on va jouer à valider ou poubelle.
Bah écoute, ça me va.
Ok, donc première question.
Je vois pas les questions. Hein.
Ouais. Combien tu penses qu'il faut combien tu penses en termes d'argent qu'un mec devrait gagner pour être capable d'avoir un appartement près des clubs pour pouvoir pool facilement?
Combien il devrait gagner?
Ouais.
J'en ai aucune idée, c'est à quelle ville t'habites? Putain, t'habites à New York ou t'habites à Dax, ça va pas te coûter le même prix, c'est très bizarre cette question.
Et ouais, mais donc tu penses qu'il faudrait avoir un budget de combien pour te faciliter la logistique, voilà?
Je pense qu'il faut avoir un budget d'être capable de se gérer soi-même, d'être indépendant et de pouvoir payer, de se payer soi-même des verres, des restos et d'être capable de le faire à la fille lorsque l'occasion en vient, voilà.
Ok, mais sans être un sugar daddy, ok, bah très bien.
Non, c'est enfin je sais pas, est-ce qu'on n'est pas dans une question de bon sens, quoi?
Alors là, t'es prêt pour la question et tu dis valider ou poubelle, hein, c'est le jeu. Quoi faire si une fille ne te répond pas à tes textes, à tes échanges SMS lorsque t'es en train de flirter avec elle?
Poubelle. Parce qu'en fait, c'est trop simple. Non, c'est pas trop simple, mais c'est. Je veux dire.
Ah non, mais très bien. Je vais essayer.
Qu'est-ce qu'on fait quand elle veut pas nous parler? Et tu te casses. Vas-y.
Ok, donc en soirée, lorsque par exemple tu as pris le numéro d'une fille, admettons assez tôt dans la soirée, donc vers 11h, et que t'aimerais la revoir plus tard dans la même soirée, quel genre de texto tu devrais lui envoyer? Et est-ce que t'as un exemple en tête?
Donc tu prends son numéro à 23h,
admettons.
Il est 1h du mat.
T'as envie de la revoir dans la même soirée.
Ok, est-ce que t'es au même endroit? Est-ce que t'as changé? Est-ce qu'elle a changé d'endroit?
Il n'y a pas de précision, mon gars.
Mais non, mais c'est les questions qu'il faut savoir.
Ouais, tout à fait. Mais est-ce que tu veux prendre un exemple par rapport à toi? L'idée serait que quand tu prends son numéro, tu évoques l'idée de la revoir plus tard dans la soirée.
Voilà, tu prends pas son contact pour avoir pris son contact. C'est parce que ça permet de séduire, d'organiser quelque chose plus tard ou de permettre la mise en contact pour la revoir.
Qu'elle soit pas étonnée, quoi.
Non, moi je dirais simplement que je respecterai ce qu'on dit dans notre programme de mentoring que j'ai intérêt de date sur le module 4, sur les messages. Les trucs les plus simples, sans détailler d'outre mesure, ça serait tout simplement d'envoyer une phrase pas marrante, mais qui montre un peu ta valeur, ce que tu fais, un truc de logistique, et qui essaye de renseigner, ou en tout cas de donner un indice où c'est que tu es, pour prendre la température si elle veut te rejoindre, ou si elle-même va te dire où elle est pour que tu puisses la rejoindre.
Et ben voilà, ça c'est pas mal, tu vois, du style, par exemple, j'en sais rien.
Enfin, c'est ça aussi, mais c'est du bon sens.
Ouais, et moi j'irais encore plus, enfin, j'irais très 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 simple. Mon conseil, ça serait déjà de faire le taf au moment de prise de numéro. T'es en soirée, normalement t'es capable de sexualiser, de flirter à mort, d'avoir un gros eye contact. Donc profiter de cette vibe là quand t'arrives à le faire avec une fille pour prendre son contact, dire que tu vas dans un autre endroit et que tu lui écriras plus tard. Et voilà. Si t'as fait tout ça,
Eh bien, regarde, un truc très simple, un exemple concret. Tu prends en photo un verre ou alors un tableau qu'il y a dans le bar ou j'en sais rien, et tu peux très bien dire, tiens, il y a des drôles de tableaux ici.
Ouais, ouais, ou encore, tu encore
prends,
plus simple.
Tu prends zéro risque.
Ou encore plus simple, t'es dans le feu de l'action. T'es où? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? WhatsApp? Point d'interrogation. La meuf, elle a eu une bonne expérience avec toi, elle va te dire, je suis là, et elle va te faire, et toi? Et boum, ah, pas compliqué. Hein.
Ben si ça s'est bien passé, qu'il y a eu une accroche, effectivement, un théou suffit parce que il y a pas. Là, je donne un exemple de quelqu'un qui aurait vraiment pas envie de prendre de risque du tout. Dit tiens, je balance un hameçon et voyons si ça répond. Et comme ça, il y aura pas vraiment de rejet si elle répond pas. Ce qui est le cas, puisque tu auras pas posé de questions. Mais si ça s'est bien passé, un simple théou suffit parce que dans une situation, je trouve entre 23h à minuit et 1h, si elle a un peu picolé que ça s'est bien passé. Si elle est intéressée, il y a aucune. Ça va aller très vite.
Oui,
je suis là et toi t'es où? Viens.
Puis en même temps, dans ce genre de situations qui sont assez spontanées, t'es pas là pour te prendre la tête à qu'est-ce que je vais lui écrire pendant 4 ans. Va au plus simple. Je veux dire. Ouais, prochaine question. Est-ce que t'es prêt? Prépare le buzzer, validé ou poubelle. J'ai 20 ans, je vis avec mes parents et je vais au lycée. Je trouve ça très difficile de ramener des meufs chez moi parce que mes parents sont souvent à la maison.
Poubelle.
Qu'est-ce que je dois faire? Poubelle. Allez, poubelle. C'est de la merde.
C'est encore été un bordel.
Ouais, bon.
Bon, de toute façon, il reste aller entre 5 et 10 minutes. C'est quoi? C'est le fast and furious question, c'est un peu de Better Call Lyoto.
Quand par exemple, je sais pas, vous êtes, admettons, on va en soirée, on est en train de se diriger en soirée, donc admettons que, je te donne un exemple concret, on est ici. On va vers les lieux où se passe la night, tu vois, les clubs, vers les bars. Et sur le chemin, on rencontre des filles avec qui on s'entend bien et on décide de les amener avec nous. Mm-hmm. Est-ce que lorsque tu es dans les bars et que vous décidez d'aller prendre des verres tous ensemble, est-ce que tu payes pour ces filles-là ou pas?
Validé. Non. Non, dans cette situation-là, je ne paye pas parce qu'en fait, je propose... Enfin, ça dépend comment ça s'est situé, mais en fait, tu ne les invites pas réellement. Si elles étaient en train d'aller en soirée, d'aller quelque part, en fait, tu es juste en train de dire bah, nous, on va là, il y a de super endroits, et tu soumets l'idée qu'elles vont venir passer un moment cool. Mm-hmm. C'est pas une réelle invitation à venir prendre un verre. Ça dépend de la situation, mais là, tu es vraiment en train d'expliquer, tu vois, sur le chemin d'un club. Non, tu ne payes pas la tournée pour tout le monde. Voilà, à moins, enfin, encore une fois, encore que ça soit des situations très particulières. Que tu veux vraiment faire jouer ton pognon parce que t'en as.
Comme par exemple ici, avec certaines Indos.
Ça peut, oui, bah ça peut avoir, ou certaines Russes aussi, ça peut avoir son intérêt. Après, voilà, faut jamais faire quelque chose, enfin, faut jamais faire ce geste-là. Si tu veux régaler tout le monde, tu veux payer. En attendant une réciprocité sexuelle.
Ouais, parce qu'elle n'arrivera pas.
Non, et puis c'est pas la bonne façon de faire. On n'achète pas. Ça dépend. En Thaïlande, si t'achètes. Mais comme il nous a expliqué Chris. Mais dans cette situation-là, avec des filles qui sont un peu de la même culture que toi, tu n'achètes pas leur corps de cette manière-là.
Parce que c'est vrai que le fait de payer des verres, et notamment ici en Indonésie, certaines Indonésiennes, etc. En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu leur payes un verre? Tu payes pas une réciprocité sexuelle comme tu disais. Par contre, tu achètes du temps avec ces filles-là. Et c'est pendant ce temps-là, si tu es capable de le convertir en appliquant tous les choses d'attractivité, que tu vas potentiellement réussir à convertir. Mais ne crois pas que parce que tu payes le verre, la meuf sera OK pour coucher avec toi. Ça n'arrivera pas.
Et puis, tu
vois... à moins de vraiment un gros échange économique. Mais sinon, ça n'arrivera pas. Tu vas juste acheter du temps avec cette fille pour pouvoir la faire marrer, montrer qui t'es, parler de toi, etc. Créer de l'attraction jusqu'à lui donner envie de rester vraiment avec toi pour les raisons que tu as su démontrer pendant le temps qu'elle t'a accordé. Et c'est souvent ça la problématique lorsqu'on est en séduction. C'est les filles les plus belles, c'est très difficile à avoir du temps avec elles parce qu'elles sont sur la défensive, parce qu'elles ont une grosse sélection. Et c'est vrai que c'est ça qui est une très grande barrière à l'entrée. Et donc, c'est vrai que payer des verres, ça peut être une façon, pas forcément la plus efficace, mais ça peut être une porte d'entrée pour justement avoir du temps avec cette personne.
Ouais, et pouvoir montrer ta valeur. Mais là, dans cette situation, les filles sortaient déjà. les filles étaient allées déjà en club, c'est ça, ouais. Hein, dans le cas rencontre, actuel. Donc non, en fait, tu ne les as pas invitées à sortir de, tu n'as pas invité une fille à sortir de chez elle à faire 10 km ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, tu vois. Souvent là, c'est la règle, hein, qui dit beaucoup, celui qui paye, c'est celui qui invite. Mmh. Bon, mais des fois, c'est tricky parce que il n'y a pas d'invitation, c'est une invitation qui est un peu de la part des deux, enfin, qui est pas clair. Et là, dans cette situation-là, tu ne les as pas invités à sortir, c'était déjà sorti, donc je vois pas pourquoi tu payes. Je leur paierai la tournée. En fait, tu leur proposes de bah, tiens, nous on va là. Bah, vous allez où? Ok, très bien. Voilà, c'est super. Si on s'embarque avec nous, bah, tant mieux.
Mmh. Ok.
Voilà.
Est-ce que tu es prêt pour la suivante question? Allez, c'est parti. Celle-là, je pense que tu vas quand même la valider. Je mets une pièce là-dessus. Allez. Alors, déjà, je ne sais pas trop comment traduire le terme amog. Est-ce que tu es capable de me traduire ça en français technique?
L'ennemi masculin.
Ok. Donc, en gros, c'est. La question est comment.
C'est quelqu'un qui connaît alors si tu utilises ce terme.
Ouais, bien sûr, ouais. Comment contrer un partenaire de drague qui, après s'être fait rejeter dans un groupe de deux par sa fille.
Par sa fille ?
Par la fille qu'il a choisie dans ce groupe.
Ah, ok. Okay,
vient parler à la fille.
La deuxième.
À la deuxième qui est censée être la tienne. Comment tu fais pour contrer ce mec-là qui, après, s'être fait rejeter par. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est.
Qui change de cible et qui.
Pour expliquer aux auditeurs, quand tu dragues.
C'est une bonne question, ça.
Quand tu dragues entre potes, donc par exemple, en groupe de. Donc si par exemple, moi et Jérôme, nous allons en soirée et qu'on aborde un groupe de deux personnes, généralement, on split chacune de la sienne en fonction des.
Exact. Et il y a une règle tacite, et même plus que tacite, c'est que celui qui a fait la première interaction, c'est celui qui a la main sur. Et puis en général, tu fais le premier open que tu fais quand t'es à deux, tu le fais souvent, c'est pas obligé, il y a des stratégies, tout ça, mais tu le fais souvent sur celle qui t'intéresserait le plus, ou en tout cas, tu décales vite sur celle qui t'intéresse le plus, et le partenaire est là pour accompagner et pour prendre la suite sur l'autre fille, et ne va pas. C'est la priori, en gros, c'est la priorité de celui qui a fait le premier pas.
C'est ça, et donc la question est. Admettons, on est installé dans un groupe de deux, on est deux potes, et on est installé dans un groupe de deux. Moi, par exemple, je parle avec la mienne, Jérôme parle avec la sienne. Admettons, je sais pas, j'arrive pas à créer de l'attraction avec la mienne. Il y a un désintérêt qui se crée. Elle commence à me rejeter. Hop, qu'est-ce que je fais? Au lieu de continuer la conversation friendly, je passe sur celle de mon pote. Comment, Jérôme, si je commence à attaquer sa meuf, comment il peut faire pour me dire d'aller me faire mettre sans que ça casse la dynamique du groupe?
Déjà, ça dépend le niveau d'intimité, le niveau d'expérience, tu vois, parce que nous, à ce stade où on en est, tous les deux, on n'a pas besoin de. Je sais très bien que tu vas pas. Je n'ai pas besoin de te contrer. Je sais très bien que tu es conscient de ce qui se passe et que si tu chavires sur l'autre, je sais que soit c'est momentané. Soit c'est une porte de. C'est un espèce d'exit pour gagner du temps, pour essayer de. Peut-être que ça n'a pas accroché, tu y reviendras plus tard. Mais il y a un truc tacite comme quoi c'est clair dès le départ, tu vois. Donc, tu vois, dans cette situation-là, je sais que j'ai pas à te contrer. Tu vois, c'est-à-dire que je vois que tu diriges, je fais ok, très bien. Il le fait pour une raison particulière, soit parce que ça accroche pas ou quoi, donc je vais me diriger. Et puis, si ça se trouve, toi, ça va accrocher avec la deuxième, et puis moi, ça va accrocher avec la première, ça va m'aller très bien. Et c'est une question aussi de bonne entente et aussi de ouais. Nuance. Et puis, en revanche, ouais, vas-y.
Non, j'allais juste dire que l'autre avantage qu'on a à Bali, c'est que personne comprend le français, donc on peut s'envoyer les infos en temps réel, et donc ça, c'est vrai que c'est un avantage sympa.
Ouais, ça j'avoue, c'est que tu peux te dire en direct live devant les filles la stratégie presque. c'est assez facile. Enfin, c'est cool. Sinon, en revanche, si il y a pas un grand niveau de conscience sur ça. Et que tu vois qu'il essaie de te manger le morceau, alors que toi, t'as été cool, tu l'as wingé, le mec s'est fait rejeter, il essaie de prendre ton truc. Le mieux, c'est de laisser un peu passer la situation et ensuite en parler, faire une espèce de table rase, lui dire bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, t'as directement viré, tu vois, moi, je t'ai l'idée, donc tu prends, c'est un peu. Je veux bien que tu fasses ce mal alpha, mais soit on est partenaire, soit on l'est pas.
Ouais, c'est exactement ça.
Tu vois, soit on travaille ensemble. Soit non, et dans ce cas-là, je vais pas te winguer, on n'est pas partenaire, tu vois, on collabore pas, on est en compétition, et dans ce cas on n'est pas partenaire. Si maintenant c'est non, il y a une espèce de collaboration, enfin c'est une collaboration, ben, tout ça c'est réglé, et puis ça s'affine au fur et à mesure. Si maintenant c'est vraiment ce truc de compétition, donc on n'est pas dans un wing, ça dépend de la. Moi, j'aime bien observer dans ces situations-là, voir un peu qu'est-ce qui se. En termes de signes d'intérêt, je dis ok, il a voulu faire le con. Ok, voyons, observons. observons, voyons un petit peu qui c'est qui est intéressé, qu'est-ce qu'il est en train de faire son cirque. Restons en retrait pendant juste 2-3 minutes, observons, et ensuite attaquons un peu plus, je veux dire, en mode intérêt personnel.
Ouais, et puis il y a vraiment ça, c'est en face des filles, c'est surtout ne pas se montrer réactif aux situations, parce que ça c'est vraiment dévalorisant, donc vraiment rester calme, laisser passer la situation. Des fois, ça, comme tu dis, t'as des pics. Où le mec va charger et ensuite ça va redescendre et ça va se lisser. Donc ne soyez pas dans la réaction. Donc déjà ça, et puis ça me fait penser à une expérience justement avec Damien. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que on était sur un groupe pareil, on était deux et deux meufs. Et en fait moi j'étais un peu trop chaud et lui il était un peu trop éteint. Et en fait j'arrêtais pas. En fait j'étais sur les deux et en fait j'avais des signes d'intérêt des deux. Et le problème c'est que je faisais girouette. Et en fait ensuite, on a débriefé et j'avais tort. Et on a parlé, c'est exactement ce que tu as dit. Oui, mais Raph, dans les règles, tu peux pas être sur les deux parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Un, t'en auras aucune des deux parce que tu peux pas être sur les deux, sauf cas particulier, tu vois. Tu peux pas être sur tous les tableaux parce que la meuf, elle va pas, tu vois.
Ouais, et puis moi, je sers à rien.
Exactement.
Dans ce cas, on collabore pas. Dans ce cas, sors tout seul et puis moi, je vais ailleurs faire des interactions.
Exactement.
C'est le but de sortir à deux, c'est de collaborer, de se bien s'entendre.
Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a parlé. Ensuite,
et ensuite, alors, c'est très bien parce que ne pas réagir. Alors, c'est bien parce que là, on a vraiment des questions intéressantes pour le coup. Ouais, je sais. Non, mais c'est vraiment des questions qui expliquent un peu vraiment les dynamiques et des trucs qui se passent en réalité, tu vois. Parce que comment draguer au lycée, bon, voilà, encore une fois, tu vois, on peut te faire une thèse de 2 heures. Mais là, ce sont des sujets précis où on peut développer. Donc ne jamais être réactif, ça c'est très bien. Ne jamais essayer de tacler.
Jamais sans partenaire.
Ouais, en tout cas de manière publique, parce que ça traduit pareil une inquiétude, ça traduit que t'es en dessous. Quand tu tacles quelqu'un, que t'essaies de le faire redescendre, c'est que par définition t'es en dessous. Donc on évite ce genre de truc.
Oui, et surtout ça change l'énergie aussi. Quand tu tacles quelqu'un, t'as tout de suite une tension qui monte. Et en fait, si tu mets cette tension à tout le groupe, les filles, elles n'ont pas signé pour avoir de l'attention.
Elles le sentent que c'est les deux hyènes qui se battent.
Elles le sentent direct. Et elles se barrent.
Non, c'est pas bon. Ouais. Ça, et puis après, bon, je sais pas, tu sais, on pourrait y réfléchir plus longuement, mais il y aurait des façons de faire qui seraient un peu ce qu'on appelle les nègres, tu vois, qui. C'est des trucs que tu peux sortir pour essayer de rabaisser la personne.
Sans que ça passe
pour du chambrage. Tu vois. C'est très difficile de trouver des exemples concrets,
mais ça peut être très bien chambrer comme un âne en faisant un câlin à ton pote. Ça t'envoie le message, tu le chambres, tu lui envoies la pique, mais en même temps tu montres que tout va bien. Et ça peut être un bon moyen justement pour maintenir ta valeur.
Exactement.
Sans la perdre en faisant le mec qui est vénère, tu vois.
Ouais, après il y a des trucs qui sont un peu moins cool. Qui vont être de dire oh, vous inquiétez pas, il n'est pas toujours comme ça, renard, mais aujourd'hui il a bu un petit peu trop, mais franchement c'est mon meilleur pote, vous inquiétez pas, c'est un mec en qui on peut avoir confiance. Quand tu dis ça, c'est subtil, c'est sous la ceinture, c'est violent, surtout quand tu donnes un truc. Si en plus, alors là mec, bon, ça c'est technique bourrin pour les dégueulasses, si tu le connais un peu, tu sais quels sont ses tendons d'Achille, quels sont ses bêtes, des trucs dont il est un peu complexé ou des trucs dont il assume pas. C'est de les balancer comme ça, mais en fait il y a que lui qui va prendre le coup dans l'estomac et personne va comprendre que c'était un tacle de cette manière-là, un peu comme j'ai dit, vous inquiétez pas, quelqu'un par exemple, tu vois, j'ai un exemple, quelqu'un qui perdrait ses cheveux, qui les assumerait pas, c'est ah toi, je vois que t'aimes bien les mecs qui perdent leurs cheveux, genre, mais ça tombe bien, vous allez bien ensemble. Et le mec il va prendre un coup dans ça va le prendre, il va probablement te détester.
Et puis la meuf va pas comprendre et elle va faire ah non, c'est pas vrai.
Ouais, et en fait personne va comprendre que c'était un tacle et en fait ça a été vraiment c'est une espèce de c'est vengeance. Bon, je suis pas sûr qu'il faut les utiliser parce que c'est un peu
Et puis cynique, et puis l'idée c'est que quand vous sortez avec un wing, normalement c'est votre partenaire.
Collaboration.
Après,
quoi.
Voilà, il peut s'avérer que ça arrive, on a toujours eu des wings qui dans un set mettent la merde parce que ils respectent pas les règles, parce que ils sont sur toutes les meufs en même temps.
Il faut l'apprendre.
Mais ça s'apprend. Et après, si vraiment le mec n'apprend pas, séparez-vous de ce wing et changez d'ouille tout simplement. On va passer à la question suivante.
Non, même pas.
Même pas, c'est terminé.
Bah, on a passé l'heure, donc je pense qu'on peut rendre l'antenne.
Eh ben écoute, ce fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, un nouvel épisode de ce podcast.
Oui, peut-être même avant, je sais pas combien on en sortira.
Oui, j'avoue. Petit appel à l'action ou c'est terminé?
Si ça
on
vous
les
a
fera
plu.
Passer au pire. Mais
les appels à l'action classiques. Si vous avez kiffé, non, mais si vous voulez d'autres questions, parce qu'on fait des questions-réponses comme ça un petit peu de temps en temps quand on a des questions qu'on voit qui tombent, c'est sur l'Instagram. Envoyez-les sur l'Instagram directement. Lyoto 2-du-bas officiel. Le lien, c'est le deuxième dans la description, vous allez pouvoir le retrouver. Vous nous faites un vocal, comme ça vous passez en direct dans l'émission, et puis on répond à votre question. Et puis si vous faites des questions, comme je l'ai dit, un peu plus spécifiques, un peu moins très larges comme ça, parce que c'est pas très intéressant ni pour vous ni pour nous, eh ben voilà.
Eh ben merci Jérôme, et puis merci on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao.